L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, les excuses du Premier ministre belge auprès des enfants métis victimes de ségrégation sous l'administration coloniale du Congo belge et du Rwanda-Burundi. Au Canada, un rapport inquiétant estime que ce pays du Nord se réchauffe deux fois plus vite que le reste de la planète. En Algérie, après la démission du président Bouteflika, les manifestants réclament désormais la fin du régime qui l'a accompagné depuis 20 ans. L'actualité, c'est aussi le retour en prison pour le franco-libanais Carlos Ghosn au Japon. Cette fois, la justice japonaise reproche à l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan d'avoir effectué de gros transferts d'argent à son profit. Enfin, on évoquera le principal parti de Suisse, l'UDC, à droite, qui n'est décidément pas en grande forme à 6 mois des élections fédérales. Voilà pour le programme francophone. Bienvenue à tous. En Belgique, Nathalie Devic, vous épinglez cette semaine le patron d'un site internet pour le moins controversé.
Reach Meet Beautiful, un site de rencontre qui propose de mettre en relation des étudiantes avec de riches hommes d'âge mûr. Sous le slogan « Améliorez votre style de vie », sortez avec un sugar daddy affiché sur de grands panneaux publicitaires baladés par camionnettes tout autour de l'Université libre de Bruxelles. Aujourd'hui, son patron Sigurd Vedal, norvégien d'origine, est accusé d'incitation à la débauche et à la prostitution. Il y a 2 ans déjà, en France, le parquet de Paris avait ouvert une enquête contre ce même site pour proxénétisme aggravé. La Belgique n'a donc pas davantage apprécié.
Au Canada, Benoît Audet, ce sont 2 anciennes ministres libérales qui ont retenu cette semaine votre attention.
Oui, Judy Wilson-Raybould et Jane Philpott, elles ont été expulsées du caucus libéral du Premier ministre Justin Trudeau après des semaines de tergiversations. Elles avaient déjà quitté le cabinet après un désaccord avec le Premier ministre au sujet du traitement accordé à la multinationale SNC-Lavalin dans une affaire de fraude. C'est le dernier chapitre d'une saga qui n'en finit plus d'embarrasser Justin Trudeau.
Pour RFI, Charlotte Hydrac, votre personnalité de la semaine est la nouvelle porte-parole du gouvernement français rendant hommage au Sénégal.
Oui, c'est le pays d'origine de Sibeth Ndiaye et 39 ans, jusqu'ici conseillère communication d'Emmanuel Macron, dévouée au président, réputée pour son franc-parler. Née à Dakar, arrivée en France à l'âge de 16 ans, naturalisée en 2016. Et en prenant ses fonctions, Sibeth Ndiaye a remercié ses parents, un père ancien député numéro 2 du Parti démocratique sénégalais, une mère magistrate, première femme présidente du Conseil constitutionnel au Sénégal, une famille politisée donc qui lui a transmis, dit-elle, l'envie de se dépasser.
En France, un nouveau président élu à la tête de la Conférence des évêques de France, Éric de Moulin-Beaufort, a 57 ans. Il sera donc le représentant de l'Église de France auprès des autorités. Il débutera son mandat le 1er juillet. Éric de Moulin-Beaufort était jusqu'ici archevêque de Reims. Il est connu pour avoir été à l'initiative de la création en 2016 d'une commission pour prévenir les agressions sexuelles au sein de l'Église. Il a aussi coordonné dans son diocèse la lutte contre la pédophilie. C'est un bon communicant. Il apparaît donc comme l'homme de la situation dans une église de France empêtrée dans les scandales de pédocriminalité. En Suisse, Joël Marchetti, la défense du paysage et de l'écologie, a perdu cette semaine une personnalité connue de tous.
Oui, Franz Weber a décédé cette semaine. Il avait 91 ans. Et s'il y a un homme qui a marqué l'écologie en Suisse, c'est bien lui. Franz Weber, c'est 50 ans de combat pour la nature, les animaux et le patrimoine. En 1977, avec Brigitte Bardot, il avait interpellé le gouvernement canadien pour dénoncer la chasse aux phoques. L'image est restée dans les mémoires. Parmi les innombrables combats de Franz Weber, en Suisse, on peut aussi citer ses actions pour protéger la région du Lavaux, région viticole qui surplombe le lac Léman et qui est aujourd'hui, peut-être un peu grâce à Franz Weber, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Les excuses donc du Premier ministre belge, Nathalie Devic. La Belgique a présenté ses excuses pour les injustices et les souffrances subies par les milliers d'enfants métis nés en Afrique pendant la période coloniale.
Des enfants nés de pères colons, belges et arrachés à leur mère congolaise, rwandaise ou burundaise pour être placés dans des orphelinats ou proposés à l'adoption en Belgique. C'était au début des années 60, au moment de l'indépendance et de la décolonisation. Le Premier ministre s'en est officiellement excusé au nom du gouvernement belge.
En mettant en place dans l'Afrique coloniale belge un système de ségrégation ciblé à l'encontre des métis et de leurs familles, l'État belge a posé des actes contraires au respect des droits humains fondamentaux.
Des mots sans équivoque, Charles Michel n'hésite pas à parler d'une véritable politique d'enlèvement forcé menée à l'époque. Pour le cofondateur de l'association des Métis de Belgique, François Dadesky, c'est une reconnaissance historique, bien que tardive, qui permet de tourner la page d'une histoire douloureuse en retrouvant une certaine dignité. Pour autant, prévient-il, leur combat n'est pas terminé.
Qu'on nous reconnaisse comme Belges à part entière, c'est une victoire, mais cette victoire doit profiter aux gens qui sont dans la diversité, que ce soit des gens membres de la diaspora africaine, afro-descendants ou autres. Le combat qu'on mène permettra aussi, je dirais, quelque part de lutter contre cette montée du populisme. J'en suis convaincu.
Une conviction que ne partagent pas toutes les familles victimes de cette sombre page d'histoire. Certaines estiment que les mots ne suffisent pas et envisagent encore des actions en justice pour réclamer réparation de ce qu'elles qualifient purement et simplement de crime contre l'humanité.
Le Canada se réchauffe en moyenne deux fois plus vite que le reste de la planète. Benoît Audet, c'est le constat inquiétant d'un rapport gouvernemental.
Oui, le rapport d'Environnement Canada qui indique que depuis 1948, la température sur la terre ferme au Canada a augmenté en moyenne de 1,7 degrés Celsius. À l'échelle de la planète, pendant la même période, les températures ont augmenté en moyenne de 0,8 degrés. Il n'y a pas que la hausse des températures qui est préoccupante. On note aussi que le Canada a connu une augmentation des précipitations, de même que des conditions extrêmes pour les feux de forêt et les pénuries d'eau.
Et le Canada a identifié le principal coupable dans cette hausse des températures.
Et oui, ce sont les activités humaines et en particulier les émissions de gaz à effet de serre qui sont en grande partie responsables de cette augmentation. Parmi les conséquences attendues d'ici la fin du siècle, il y a la hausse du niveau de la mer le long de la côte atlantique du Canada. Elle pourrait atteindre de 75 à 100 cm d'ici la fin du siècle.
Oui, il faut préciser aussi, Benoît, que la publication de ce rapport intervient dans un contexte assez particulier au Canada.
Oui, une taxe fédérale sur le carbone est entrée en vigueur lundi dernier dans quatre provinces qui ne s'étaient pas entendues avec Ottawa sur cette question. Cette taxe est rejetée par la plupart des leaders conservateurs au pays. Déjà, l'environnement s'impose comme un thème majeur de la prochaine campagne électorale fédérale.
En Algérie, on pensait il n'y a pas si longtemps que le président Bouteflika était indéboulonnable, mais les manifestations de rue ont donc eu raison de lui. Et c'est bien une page qui se tourne, Charlotte Hydrac.
Oui, 20 ans de pouvoir et puis s'en va. Boutef, comme l'appellent les Algériens, a fini par démissionner mardi. Le dirigeant tout puissant des débuts était devenu un président absent, malade, en fauteuil roulant. Et la tentative de briguer un cinquième mandat aura été la goutte d'eau pour les manifestants mobilisés depuis le 22 février dernier, c'est une première victoire.
C'est un pas de géant pour les Algériens, pour les jeunes Algériens qui ont constaté que cette petite révolution pacifique a porté ses fruits.
Enfin de la joie. On se sentait humilié, puis là, on reprend confiance, on est heureux.
Je suis venu en famille pour exprimer une joie suite à l'annonce du départ de ce despote. Nous l'avons subi durant ces deux décennies et c'est énorme. Vive l'Algérie!
Ils ont emporté une bataille, mais pas la guerre. Ce vendredi, des rassemblements ont de nouveau eu lieu dans tout le pays pour réclamer la fin du système, car ce sont des hommes clés du régime Bouteflika qui gèrent maintenant la transition, le temps d'organiser des élections d'ici trois mois. Cette démission a en tout cas révélé au grand jour la guerre des clans en Algérie entre l'entourage du président qui a tenté de résister, les milieux d'affaires, plusieurs chefs d'entreprise ont été arrêtés, l'armée surtout qui a précipité les événements. Alors quel sera son rôle dans l'après Bouteflika? Tous les regards sont tournés vers son chef d'état-major désormais.
Retour en prison donc pour le franco-libanais Carlos Ghosn, l'ancien PDG de Renault-Nissan, venait de passer près de trois mois dans une prison japonaise jusqu'à ce qu'il verse il y a un mois une caution de près de 8 millions d'euros. Il vivait depuis en résidence surveillée. Il a donc été une nouvelle fois arrêté jeudi matin à son domicile japonais, conduit aussitôt en garde à vue au centre de détention dans le nord de Tokyo. Carlos Ghosn est déjà mis trois fois en examen pour abus de confiance et déclaration inexacte de revenus. Cette fois, la justice japonaise le soupçonne d'avoir organisé des transferts d'argent suspects vers Oman. Une partie de ces montants serait revenue indirectement à Carlos Ghosn, qui aurait acheté un yacht et investi dans une société dirigée par son propre fils aux États-Unis. Juste avant son arrestation, Carlos Ghosn avait été mis au courant de l'arrivée de la police japonaise. Il a donné une interview à la chaîne française LCI pour dénoncer une décision qu'il juge révoltante et arbitraire, une décision orchestrée, dit-il, par les cadres de Nissan.
Il n'y a pas eu une semaine au cours desquelles il n'y a pas eu de nouvelles accusations, il n'y a pas eu de nouvelles rumeurs, il n'y a pas eu des faits qui sont sortis de leur contexte. Il y a eu une démolition systématique. Il y a quelques personnes à l'intérieur de Nissan qui sont à l'origine de ça. Ils bénéficient de complicité aussi à l'extérieur de Nissan. Ils ne se sont pas suffi d'influencer et d'agir au Japon. Ils agissent à l'extérieur du Japon et notamment en France.
Alors, y a-t-il eu abus de pouvoir au Japon ? Les médias japonais reconnaissent qu'il est extrêmement rare, effectivement, d'être arrêté une nouvelle fois après avoir été libéré sous caution. En Suisse, à 6 mois des élections fédérales, l'UDC, le parti de la droite conservatrice, premier parti de Suisse, l'UDC connaît un passage à vide, Joël Marchetti.
Oui, en 25 ans, l'UDC a enchaîné les succès. Ses combats sur les thématiques de l'asile ou de la souveraineté de la Suisse lui ont apporté de nombreuses victoires et en ont fait le premier parti de Suisse avec près de 30% des voix récoltées lors des dernières élections fédérales en 2015. Et justement, les prochaines élections fédérales ont lieu en octobre prochain et ces derniers temps, l'UDC a essuyé plusieurs scores négatifs dans des élections régionales, notamment à Zurich. Face à cette situation, Uli Maurer, ministre UDC, a lui-même appelé cette semaine son parti à en faire plus. Selon lui, l'UDC prend désormais trop ses aises et il n'est pas le seul à le dire. Un autre UDC, Yvon Perrin, va dans le même sens.
Nous sommes devenus confortables. C'est-à-dire que nous nous sommes dit, bon, mais ok, cette fois on y est, nous sommes le premier parti de Suisse, on peut se reposer un moment. Et c'est une erreur. C'est une erreur et je constate là que nous payons le prix fort. Et nous devons maintenant fixer de nouveaux objectifs et remobiliser les gens qui nous soutiennent. On doit redonner envie, si je puis dire.
Le fait est que les thèmes les plus présents actuellement dans le débat en Suisse ne sont pas véritablement les sujets typiques de l'UDC. Écoutez à ce propos le politologue Claude Longchamp.
Les sujets de la population ont changé ces années. C'est plus la politique migratoire. Aujourd'hui, c'est plutôt la politique de santé, la politique des caisses maladies, la politique du social qui touche les personnes. Et là, je pense que le parti n'a pas vraiment trouvé le courant.
On peut aussi ajouter la question climatique, très présente. Les différents partis écologistes ont d'ailleurs gagné passablement de voix lors des scrutins régionaux de ces dernières semaines. Mais la campagne des élections fédérales dure encore 6 mois. Il peut se passer beaucoup de choses. Et on voit mal l'UDC perdre sa place de premier parti en Suisse.
Voilà pour l'actualité francophone de la semaine. Merci aux contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous francophone, ce sera la semaine prochaine au même endroit et à la même heure.